TAFTA, un doux nom pour un traité commercial qui pourrait changer nos vies.
Et pas vraiment en mieux, nous allons y revenir avec vous, Jean-Louis. Vous êtes économiste et conférencier, président d'Attaque 04 et animateur du collectif Stop TAFTA. Alors Jean-Louis, déjà merci d'être dans nos studios aujourd'hui. Et un petit rappel de ce qu'est TAFTA pour nos auditeurs qui en entendraient parler pour la première fois.
Alors TAFTA, qui s'appelle également TTIP ou bien GMT, Grand Marché Transatlantique. Donc TAFTA, c'est un traité qui est en négociation, un traité commercial, en négociation entre les États-Unis d'une part et l'Europe d'autre part, qui pour l'instant n'est pas encore ni signé ni ratifié, qui est en cours de négociation d'une façon très opaque, mystérieuse, mais on a quand même quelques idées de ce qu'il peut y avoir dedans, puisqu'il y a un autre traité qui lui est signé, qui s'appelle le CETA, entre le Canada d'une part et l'Union européenne, et qui lui a été publié puisqu'il a été signé mais pas encore ratifié. Donc à partir de ce qu'il y a dans le CETA, on peut imaginer de ce qu'il va y avoir dans le TAFTA.
Bon, ce sera un genre de copier-coller du TAFTA.
Ce sera un copier-coller arrangé, oui, arrangé.
À la sauce américaine.
À la sauce américaine, et puis bon, en fonction de différences de pays, mais ça sera très proche, très probablement.
Alors en quoi TAFTA va-t-il impacter directement sur notre vie, sur notre quotidien, Jean-Louis?
La question est immense. Ça va tout modifier. Bon, je pense que la première grande modification, c'est qu'on va changer de système politique. On ne sera plus vraiment dans une démocratie, en ce sens que les décisions politiques, les lois des États, des régions, des départements, voire des communes, vont être en fait impactées par ce TAFTA, dont l'objectif principal est de libéraliser le commerce. Donc tout ce qui va contraindre le commerce pourra être refusé en fait par ce traité, et donc les États, les départements, etc., devront faire des lois en fonction de ce traité sans jamais gêner le commerce. Alors par exemple, si vous mettez une norme sur l'interdiction des pesticides à plus de 200 mètres des maisons, par exemple, cela veut dire que vous allez évidemment freiner la vente de pesticides, donc limiter les bénéfices, le commerce, et donc éventuellement les multinationales concernées pourront attaquer celui qui a pris la décision.
En clair, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les multinationales deviendront plus fortes que les États.
Oui, de fait, parce que bon, d'abord, dans la négociation sur le millier à peu près de négociateurs, il doit y avoir à peu près 800 représentants des multinationales, ou du moins de leur lobby, qui sont extrêmement bien organisés, beaucoup mieux que les collectifs Stop TAFTA, par exemple, qui ont beaucoup plus d'argent, bien sûr. Et donc déjà, ils ont un poids énorme dans la négociation. Et ensuite, ils pourront, s'ils considèrent qu'une décision limite leurs bénéfices potentiels, ils pourront attaquer les États ou les communes ou les régions.
Et alors justement, là, il y a aussi un point intéressant, c'est comment vont se résoudre les conflits? C'est devant des tribunaux, pas vraiment juste.
Pas vraiment des tribunaux, disons. Enfin, tel qu'on conçoit la justice en Europe. En fait, ces tribunaux, pour l'instant, tels qu'ils ont été prévus dans le CETA, ce sont des tribunaux privés qui existent déjà dans d'autres traités, comme l'ALENA, par exemple, entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Ils sont composés de 3 avocats qui peuvent être alternativement juges et avocats dans des affaires qui concernent les mêmes entreprises. Donc là, on voit bien qu'il peut y avoir un conflit d'intérêts. Et on voit que quand ce type de tribunaux fonctionne, très souvent, ce sont les multinationales qui en gagnent cause. Actuellement, par exemple, dans le cas d'autres traités, l'Europe est attaquée dans une multitude de conflits et il y a 30 milliards d'euros qui sont réclamés, dont 3 milliards ont déjà été versés par les différents pays européens. Donc c'est pas seulement une idée en l'air, hein. C'est que ça correspond vraiment à une réalité.
Ça existe déjà. Il y a des exemples aussi très concrets d'autres traités. Je pense par exemple au cas de l'Égypte qui avait voulu augmenter un petit peu le SMIC, hein, le salaire minimum, et qui a été attaqué par Suez, c'est ça ?
Veolia. Donc dans le cadre, en effet, d'un autre traité avec l'Égypte, Veolia a attaqué l'Égypte, qui a augmenté en 2012-2013, je ne sais plus exactement, qui a passé le SMIC de 42 euros à 72 euros et qui a indexé le SMIC sur l'inflation. Ce qui, évidemment, est gigantesque pour les multinationales, ce qui est pour 168 habitants. Et on a des multitudes d'exemples, des centaines et des centaines d'exemples qui sont en cours aujourd'hui.
Un exemple assez parlant. Au niveau politique, est-ce que les choses bougent? Est-ce que des États européens se mobilisent plus que d'autres? Et en France, où est-ce qu'on en est au niveau politique, responsabilité politique?
Alors, au niveau des hommes politiques, c'est un petit peu difficile de bien savoir où ils en sont, ce qu'ils font, ce qu'il faut comprendre. Ils soufflent un peu le chaud et le froid. Bon, récemment, le ministre du Commerce a estimé que si les négociations étaient toujours aussi opaques, la France devrait quitter les négociations. Mais il y a quelques mois, François Hollande a demandé au président Obama d'accélérer les négociations afin que le peuple ne puisse pas s'en mêler trop rapidement. Donc on ne sait pas trop ce que l'on sait, c'est qu'il y a des réactions par contre populaires, surtout en Allemagne, en France, mais également dans toute l'Europe de l'Ouest, Italie, Espagne, Grande-Bretagne, et également aux États-Unis, où il y a des groupes qui s'organisent pour lutter contre ce TAFTA, parce qu'il va libéraliser le commerce, mais aussi impacter toute la vie quotidienne des uns et des autres.
On pense par exemple, il y a l'exemple très emblématique des poulets à la Javel.
Oui, tout à fait. Alors voilà un exemple, parce que bon, l'objectif de départ peut être accepté. C'est-à-dire qu'on veut harmoniser les normes des deux côtés de l'Atlantique.
Mais vers le haut ou vers le bas?
Voilà, la grande question, c'est comment on les harmonise, vers le haut ou vers le bas, en effet. Et on sait que les Américains n'ont pas du tout la même approche que nous, en particulier sur les fameux poulets au chlore. Tout simplement parce que les Américains, eux, ils veulent éliminer toutes les bactéries. Ça c'est vrai depuis la crise aviaire en particulier. Et donc, une solution simple pour tuer toutes les bactéries, c'est de les passer à la Javel. En effet, c'est extrêmement efficace. Ça change peut-être un peu le goût du poulet. Alors que nous, on a une autre approche, ce qui fait que ça va être un petit peu difficile de se mettre d'accord sur les OGM en particulier, mais sur des multitudes d'autres normes, ça va être extrêmement compliqué.
Est-ce que vous comprenez pourquoi les médias n'en parlent-ils pas plus? Parce que je suis sûre que parmi nos auditeurs, il y en a beaucoup qui en entendent parler peut-être pour la première fois.
Je crains que les médias sont plus ou moins sous la dépendance de certaines multinationales. Et dans les grands médias, il y a de la publicité. Et les fournisseurs de publicité, vous savez qui c'est. Et donc, toujours un petit peu embêtant de se fâcher avec ses propres financeurs.
Seriez-vous en train de dire que les médias ne sont pas indépendants, Jean-Louis?
Je n'ai pas besoin de répondre à cette question. Donc, en effet, je crois qu'il y a ce fait-là. Bon, je pense que le jour où le traité sera publié, les médias ne pourront plus faire autrement. Donc, notre objectif à nous, en tant que collectif Stop TAFTA, c'est d'essayer de préparer l'opinion, justement, à cette publication pour qu'à ce moment-là, tout le monde réagisse aussi rapidement que possible.
Alors, vous êtes professeur d'économie. On brandit souvent l'argument économique en disant que ça va rapporter énormément ce traité commercial entre l'Union européenne et les États-Unis. Est-ce que c'est vrai?
Alors l'objectif, bien sûr, c'est en effet d'améliorer la productivité, l'emploi, la croissance, etc. Il faudrait déjà se mettre d'accord sur ce qu'est la croissance, mais on ne va pas rentrer dans ce débat aujourd'hui. Alors, la Commission européenne elle-même a essayé de faire des calculs. Et donc, la Commission européenne estime que dans les 10 années qui viennent, le PIB pourrait augmenter de 0,5%, c'est-à-dire 0,05% par an. En gros, ça donnerait un sursaut de croissance à peu près identique à la sortie d'un iPhone. Voilà, c'est à peu près l'impact que ça aurait, donc vraiment très faible. Donc évidemment, sur l'emploi, ça n'aurait aucune conséquence, puisqu'on sait qu'il faut en France, par exemple, 1,5 ou 2% de croissance pour qu'on puisse commencer à baisser le chômage. Donc vous voyez qu'on est très loin de l'objectif. Et puis aussi, on sait que, par exemple, dans le cadre de l'ALENA, qui a été signé en 92 et mis en place en 94, les États-Unis eux-mêmes ont perdu 1 million d'emplois en 12 années. Et au Mexique, ils ont perdu 5 millions d'emplois, essentiellement dans l'agriculture, qui était directement concurrencée par la grande agriculture américaine. Donc, au mieux, ça n'aura pas d'impact. Et au pire, ça peut avoir un impact négatif sur l'emploi, puisque la recherche de compétitivité, c'est aussi faire pression sur les salaires. Et le meilleur moyen de faire pression sur les salaires, c'est qu'il y ait du chômage.
Comment c'est possible? Des fois, on a l'impression de marcher sur la tête que nos gouvernants, nos hommes politiques, qui ont ces exemples de l'ALENA ou d'autres traités internationaux qui sont déjà passés, dont on a vu les effets, puissent ne pas se prononcer contre ce genre de traité?
Je crains que les hommes politiques vivent dans une bulle, en fait. Je crois qu'ils n'ont plus les pieds sur terre et sont probablement très influencés par le monde de l'entreprise qui a des moyens puissants de communiquer avec eux, par les lobbies en particulier. Et donc, finalement, je pense qu'une grande partie des hommes politiques ne se rendent pas compte. En plus, puis par ailleurs, il y a une partie des hommes politiques qui font du va-et-vient entre le privé et puis le...
Qui, eux aussi, manquent un peu d'indépendance.
Public. Et fatalement, ils sont dans un conflit d'intérêts quasi permanent. Soit ils préparent le futur, soit ils ne veulent pas se fâcher aujourd'hui. Enfin bref. Et donc, à partir de là, je pense qu'en effet, il y a un problème d'indépendance.
Alors, je fais juste un petit aparté pour signaler qu'il y a certaines collectivités territoriales, puisqu'on l'a vu, elles peuvent aussi être touchées par des affaires, comme vous en avez parlé avec ce petit village de 180 habitants, qui s'élèvent contre TAFTA, qui se prononce commune ou collectivité territoriale hors TAFTA. Dans le 04, vous avez quelques exemples ?
Oui, alors j'avoue que je n'ai pas la liste complète parce que toutes les communes ne nous communiquent pas leur délibération, mais bon, il y a Manosque d'abord. Hein. La première collectivité qui s'est mise hors TAFTA, c'est la région PACA, dans son ensemble. Mais il y a aussi Fort-Calquier, Niozel, Pierre-Rue, Josier, Thoard, Digne,
Volx, et j'en passe
forcément. Mais donc il y a de plus en plus, en effet, de communes qui se mettent hors TAFTA. Bon, c'est symbolique, il est vrai, mais en même temps, ça peut permettre de faire prendre conscience aux citoyens de ces communes qu'il y a un souci derrière.
Alors justement, si vous aussi vous avez envie de vous mobiliser contre ce traité transatlantique entre l'Union européenne et les États-Unis, il y a une journée très importante qui arrive en fin de semaine, vendredi. C'est ça, Jean-Louis, c'est une journée internationale de mobilisation.
Alors c'est pas vendredi, c'est samedi.
Samedi, je me trompe à chaque fois.
Donc samedi 17, en effet, il y a une journée internationale contre le TAFTA. Alors, il y a des manifestations à peu près dans toutes les grandes villes, à Aix, à Marseille. Pour nous, dans le 04, ça sera à Digne. Donc, samedi matin, 17 octobre, entre 10h et midi, nous allons distribuer des tracts sur le rond-point du Tampinet, qui est juste à l'entrée de Digne. Et en même temps, ça nous permettra d'expliquer à ceux qui passent ce qu'est le TAFTA, à leur faire prendre conscience des dangers et entamer un débat avec tous ceux qui ne connaissent pas le TAFTA.
Donc il faut être nombreux ce samedi. Et est-ce que vous pensez qu'on a vraiment une chance en tant que citoyen de faire pencher la balance et de faire...
Ce dont je suis sûr, c'est que tout le monde avait envie de faire pencher la balance, on la ferait pencher. Il y a des grands exemples dans l'histoire. Hein. Il suffit d'être nombreux pour faire pencher la balance. Même si on se sent un peu désespéré devant cette tâche immense, bon, déjà on a l'expérience du passé. Je ne parle pas des grandes révolutions, hein, mais on peut aussi y penser. Mais récemment, l'AMI, qui est un accord de ce genre, a été en effet passé à la trappe grâce à la mobilisation des citoyens. Donc oui, bien sûr qu'on a une chance. D'autant qu'on sait que les négociations se passent plutôt très mal. Par exemple, beaucoup de gouvernements européens ne sont pas d'accord sur les tribunaux privés, ou du moins devraient les modifier très sérieusement, alors que les Américains y tiennent. Donc je pense qu'il y a suffisamment de soucis dans la négociation pour qu'en appuyant un petit peu sur le frein, on puisse en effet empêcher la signature de ce traité.
En tout cas, je rappelle pour nos auditeurs que donc à Digne, à 10h, au rond-point du Tampinet, il y a une distribution de tracts. Vous êtes les bienvenus pour distribuer ces tracts et informer le maximum de personnes sur ce qu'est TAFTA. C'est donc ce samedi 17 octobre à 10h à Digne. Jean-Louis, je rappelle aussi que vous animerez un quiz débat à la salle polyvalente de Josier. C'est ce vendredi 16, cette fois je ne me trompe pas, à 18h. Donc c'est pour nos amis de Lubaï, on leur rappelle cette conférence. C'est quelque chose que vous faites depuis 2 ans à peu près.
Oui, c'est la 7e conférence qu'on organise sur le département. Oui.
Et donc, c'est des conférences ludiques sous forme de quiz.
Voilà, des conférences ludiques. On essaye de rigoler, bien qu'on soit sur un sujet extrêmement sérieux. Je précise également que samedi matin, il n'y aura pas que des vieux retraités, mais aussi une bande de jeunes déguisés avec
Bambab,
Tukada, etc. Donc, vous pouvez aussi venir faire la fête.
Et bien voilà, le message est passé. Merci beaucoup Jean-Louis d'être venu sur notre antenne pour nous parler de pourquoi il faut se mobiliser contre TAFTA, même s'il a un joli nom. Ça va être un traité dévastateur pour nous concitoyens de partout, de toute l'Europe, l'Union européenne. Nathalie, sur ce message militant, je vous remercie pour la technique.
Merci Camille, restons positifs.
Et puis voilà, restons positifs et puis à demain, une bonne journée à tous.